RFI Matin, à suivre dans 5 minutes, notre invité Afrique, le journaliste Thomas Hoffnung, pour son livre « Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique ». C'est une enquête sur le bombardement du camp militaire français de Boaké, en Côte d'Ivoire, il y a 20 ans. Et tout de suite les sports avec Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous.
Football au programme, place à la course à la CAN jusqu'à mardi prochain. Au programme, les 3e et 4e journées de qualification au tournoi continental.
Qui se déroulera au Maroc, vous le savez, qui débutera pile pour les fêtes de fin d'année. Ça tombe bien quoi. Enfin pour certains en tout cas.
2025 hein.
Bien sûr, évidemment, dans un peu plus d'un an. 47 voilà. Sélections en rêve de ce Noël chérifien, les Marocains. Marocains étant qualifiés d'office, d'ici mardi, 48 matchs aller-retour sont programmés, qui devaient commencer dès ce mercredi, mais finalement, Namibie-Zimbabwe a été déplacé à demain 13h temps universel à Johannesburg.
Et plusieurs de ces rencontres vont se dérouler en Côte d'Ivoire.
Terre d'accueil, s'il en est, à Kouaba, on le sait, particulièrement ceux qui y ont vécu là, ou en tout cas l'une des plus belles CAN de l'histoire il y a quelques mois, en janvier dernier, a commencé par les Ivoiriens. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, vendredi, comme Bénin, Rwanda ou encore Comores, Tunisie, mardi, mais aussi Burkina Faso, Burundi, aller-retour, Guinée, Éthiopie, aller-retour, le pays des éléphants accueille 7 matchs en tout cette semaine, de quoi rendre nostalgiques certains supporters. Youen Gourlet.
8 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, il y a comme un parfum de CAN dans l'air. 10 équipes africaines s'apprêtent à jouer au moins un match de ces éliminatoires dans une enceinte ivoirienne, faute de stade aux normes dans leur pays. De quoi revivre quelques émotions pour Joseph, un supporter ivoirien.
Accueillir toute l'Afrique, c'est un peu dans la même veine que la CAN de l'hospitalité qu'on a vécu. Et puis il y a des pays qui sont en difficulté, la construction des stades qui ne sont pas homologués par la FIFA et tout ça. On est un peu nostalgique de l'absence de la CAN et donc si on peut la revivre encore un peu, on prend.
Une fierté pour les instances du foot ivoirien qui continue ainsi de faire fonctionner les stades construits ou rénovés pour la CAN alors que certains observateurs craignaient qu'ils ne deviennent des éléphants blancs. Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football.
On a eu l'opportunité d'avoir des infrastructures de très bonne qualité et des infrastructures réparties sur tout le territoire. Donc à la fin de la CAN, nous avons dit à nos pairs que la Côte d'Ivoire était ouverte à les accueillir. Donc les pays qui ont eu besoin de venir nous ont contactés. Et bon, voilà comment les pays ont commencé à venir progressivement. Donc c'est l'accueil, la Kouaba naturelle de la Côte d'Ivoire qui a rencontré les besoins de nos frères africains.
Au total, ce sont aujourd'hui 23 sélections africaines qui jouent sur terrain neutre, une situation qui profite désormais à la Côte d'Ivoire. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Et si pour certains dans cette huitaine, il y aura peut-être déjà une qualification à valider, pour d'autres, ce seront surtout des espoirs à préserver.
Et ce sera le cas du Ghana, un point en 2 matchs jusqu'ici pour les Black Stars, opposés au Soudan dès demain, jeudi.
Match aller à Accra, effectivement, dans un stade national homologué in extremis, avec notamment une nouvelle pelouse que les Ghanéens retrouvent avec plaisir pour s'entraîner depuis 48 heures. On écoute le milieu de terrain de l'AJOCR, Elisha Owosu, avec Tété Hadji.
Franchement, on est content de l'effort que toute l'équipe sportive a fait pour qu'on joue sur un très très bon terrain. On savait qu'en venant ici, ça allait être des matchs avec une forte pression et on va tout faire pour gagner ce match. On est content d'être là, on est footballeur, on peut qu'être content d'être au pays à Accra. Vous avez vu tous les fans qui étaient là aujourd'hui, donc ça nous donne la force.
Elisha Owusu, Ganassou dans 16h TU demain jeudi, en même temps que Cap-Vert, Botswana et RDC, Tanzanie, les Congolais font partie des équipes qui pourraient valider leur ticket pour la CAN dès cette semaine, comme l'Algérie qui accueillera le Togo juste après, demain soir.
Merci Olivier Pron, et vous revenez dans une demi-heure.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une, ce mercredi 9 octobre dans le prochain journal, le Proche-Orient, intensification des raids israéliens au Liban. Le Premier ministre Netanyahou menace le Liban de destruction comme à Gaza. Le Hezbollah, lui, menace Israël d'intensifier ses frappes s'il continue de bombarder le Liban. Des sirènes d'alerte aérienne ont été entendues dans la région de Césarée au sud de Haïfa, en Israël, tout à l'heure. Haïfa où étaient hier nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Nicolas Benita. Ils ont vécu une alerte et une attaque. On les écoutera dans le journal de 8h. Également à la une, la France et Michel Barnier, qui est toujours Premier ministre. La gauche n'a pas réussi à faire tomber le gouvernement. Sa motion de censure n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée hier. On tire les leçons de la séquence avec Raphaël Delvolvé dans le journal. Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique. C'est le titre du livre qui paraît aujourd'hui chez Fayard. Le journaliste Thomas Hoffnung, chef du service international au journal La Croix, a enquêté sur le bombardement du camp militaire français de Bouaké. C'était le 6 novembre 2004. 20 ans après, le mystère demeure autour de cette frappe qui a tué 10 personnes, dont 9 soldats français. En France, comme en Côte d'Ivoire, les principaux protagonistes sont toujours vivants, mais c'est l'Omerta. Thomas Hoffnung émet tout de même une hypothèse. Il est notre invité avec Christophe Boisbouvier.
Thomas Hoffnung, bonjour.
Bonjour.
La thèse de l'avocat Jean Ballan sur Bouaké, c'est qu'il s'agit d'une bavure franco-française. Les Français auraient poussé le bombardier ivoirien à frapper le bâtiment, qui était censé être vide à ce moment-là, et cela aurait pu alors servir de prétexte aux Français pour se débarrasser du régime de Laurent Gbagbo. Mais vous écrivez que vous n'y croyez pas. Pourquoi ?
Parce que je crois au contraire que à cette époque, donc en novembre 2004, la France s'est interposée entre les rebelles de Guillaume Soro et le régime de Laurent Gbagbo, et la France est coincée entre les deux, elle prend des coups de tous les côtés. Et en novembre 2004, on voit qu'on a des renseignements qui expliquent que Laurent Gbagbo va probablement lancer une offensive. La France décide de laisser Gbagbo attaquer. C'est ce que j'appelle dans le livre le feu orange. On sait qu'il y a des équipements, des munitions qui arrivent, qui sont d'ailleurs livrés par un marchand d'armes français, Robert Montoya. Et donc, on pense au contraire que pour sortir de la nasse, en quelque sorte, il faut laisser Gbagbo attaquer. On verra bien ce qu'il en ressort. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit un coup franco-français qui est mal tourné, qui était destiné à déposer, à renverser Laurent Gbagbo.
Autre thèse sur ce bombardement, elle est défendue par certains officiers français comme le colonel de Revel, c'est celle de l'erreur de tir. Les bombardiers ivoiriens traquaient frénétiquement les positions rebelles dans Bouaké et l'un des Sukhoi aurait raté sa cible. Et là non plus, vous n'y croyez pas. Pourquoi ?
Alors je dois dire que j'y ai cru à un bon moment jusqu'à ce que j'aille à Abidjan pour essayer de rencontrer un certain nombre de protagonistes de l'époque et qui, je dois dire, se sont tous défilés quand j'ai essayé de les rencontrer. Ce qui a suscité chez moi une certaine forme de suspicion, me disant peut-être que effectivement ils ont quelque chose à cacher, toutes ces personnes, et peut-être que ce qu'ils ont à cacher, c'est qu'ils ont fait une erreur, mais non pas de tir, mais une erreur de ciblage, c'est-à-dire qu'ils pensaient cibler les rebelles, pensaient peut-être que les rebelles se cachaient dans le camp français, ça a été dit par certains, notamment par l'ancien ambassadeur Jean-Marc Simon, d'ailleurs à votre micro au moment du procès. Et il me semble que c'est sans doute la thèse la plus vraisemblable. Ils ont peut-être cru vraiment qu'ils bombardaient les rebelles, mais peut-être des rebelles cachés par les Français.
Alors si on retient l'hypothèse de cette erreur de ciblage, qui aurait pu donner cet ordre ? Est-ce que c'est au niveau de Laurent Gbagbo lui-même ?
Je ne le crois pas. Je pense que pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, il l'a redit lors du procès de 2021, l'ambassadeur de France s'est rendu, était dans le bureau de Laurent Gbagbo. Je raconte cette scène dans mon livre, très peu de temps après le bombardement.
Une heure après.
Il a vu un homme absolument défait, qui apprenait quasiment la nouvelle. Donc je pense que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Je pense qu'il avait complètement sous-traité cette affaire aux militaires. Et alors après, reste à savoir à quel niveau, est-ce que c'est un niveau très élevé ou pas. Est-ce que c'est Cadet Bertin, qui était un des plus proches conseillers de Laurent Gbagbo et qui était très très remonté contre les Français? On ne peut pas exclure, je crois, que ce soit un niveau subalterne, peut-être à Yamoussoukro, où était l'état-major de l'opération Dignité, peut-être un officier qui a eu ce renseignement et qui s'est dit, avec cette frappe, on va emporter la victoire, on va montrer que les Français sont complices des rebelles et on en aura fini une bonne fois pour toutes, et avec les rebelles et avec les Français.
Et vous évoquez le nom du lieutenant-colonel Patrice Wey, qui commandait les opérations aériennes ivoirienne à Yamoussoukro.
Oui, alors il a un profil intéressant, Patrice Wey, parce qu'il se trouve qu'il avait été officier commandant à Bouaké, qu'il a vécu en direct l'humiliation de septembre 2002 quand les loyalistes ont dû fuir la ville devant les rebelles. Il a une revanche à prendre.
Et il a été condamné par la justice française il y a 3 ans.
Il a été condamné par la justice française, par contumace. Son avocat, curieusement, lors du procès à Paris, a fait savoir que son client, donc Patrice Wey, était totalement hors de cause dans cette affaire et qu'il était prêt à témoigner. J'ai essayé de le rencontrer à Abidjan et curieusement, son avocat m'a dit qu'il avait perdu sa trace. Là aussi, je pense que peut-être il n'avait pas spécialement envie de parler.
Alors l'Omerta, il n'y a pas que les témoins qui ont des choses à dire. Il y a aussi les enregistrements de l'époque, notamment celui de la conversation entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien à l'intérieur du bombardier Sukhoi qui va frapper le camp militaire français. Et ce qui est incroyable, c'est que vous écrivez que cet enregistrement, il existe, il est aux mains des autorités françaises, mais que celles-ci refusent de le livrer à la justice. Française.
Effectivement, une enquête a démarré et les juges qui se sont succédés, il y en a eu 4. Je crois que c'est la première, Brigitte Reynaud, qui avait demandé la déclassification de ces enregistrements et en fait, on lui a opposé le secret défense. Donc ces enregistrements, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été versés dans le dossier et qu'on ne les ait pas entendus lors du procès. Je pense qu'ils auraient pourtant éclairé de manière cruciale les débats. Je crois que les familles attendent toujours des réponses et le le procès n'a rien résolu dans ce domaine.
Thomas Hofnung, merci.
Le journaliste Thomas Hofnung pour son livre Enquête Boisqué, le dernier cold case de la France-Afrique, publié chez Fayard. Il répondait à Christophe Boisbouvier. L'actualité des matières premières avec Marie Pirolfant, comme chaque jour. À quelques jours d'intervalle, le Burkina Faso puis le Mali ont interdit l'exportation d'amandes de karité. Ces fruits servent à fabriquer du beurre de karité, qui est utilisé en cosmétique, mais surtout de la stéarine, substitut au beurre de cacao. Les décisions maliennes et burkinabées font monter la pression sur les autres pays producteurs d'Afrique de l'Ouest et les prix grimpent aussi.
En quelques jours, la décision du Mali et du Burkina Faso a bouleversé la donne. Immédiatement, la demande s'est reportée sur d'autres producteurs et en particulier sur le Bénin, le Togo et le Nigeria. L'effet est massif dans ces trois pays côtiers, selon les analystes du bulletin agricole Nkalo, qui relève des niveaux de prix exceptionnels. C'est du jamais vu en 17 ans, confirme un industriel qui a pour l'instant choisi de puiser dans ses stocks plutôt que d'acheter. Au Bénin, les prix ont augmenté de 50% en trois semaines, au Nigeria de 25% sur le dernier mois et de 100% depuis le mois de mai. Car avant même la décision des deux pays de l'AES, les prix avaient été emportés dans une spirale spéculative. Une flambée qui a mis en difficulté certains transformateurs maliens et burkinabés qui ne pouvaient plus s'approvisionner. D'où la mesure prise par le Burkina Faso et le Mali pour officiellement soutenir la transformation locale. Mais le retour de bâton pourrait être rapide. Dans ces deux pays, les usines ne peuvent en aucun cas transformer un énorme surplus de matières premières. Elles n'ont pas non plus la trésorerie pour acheter beaucoup plus qu'aujourd'hui et n'auraient pas les moyens de stocker le beurre de karité obtenu. Pour l'instant, faute de pouvoir être exporté ou traité rapidement sur place, les amendes s'accumulent et au Burkina Faso, leur prix a déjà baissé. Les grossistes accusent le coût, ils ne peuvent plus exporter et doivent se contenter d'un débouché local moins rémunérateur. À en croire un fin connaisseur de la filière, les risques d'une interdiction prolongée sont déjà écrits. Avec, pour commencer, la fuite illégale d'amandes de karité aux frontières du Mali et du Burkina Faso pour être vendues plus cher ailleurs.
Marie-Pierre Olfand dans RFI Matin. Grand reportage vous emmène aujourd'hui en République démocratique du Congo pour tenter de comprendre pourquoi l'art contemporain congolais s'impose de plus en plus sur les marchés internationaux. On ne compte plus les artistes du pays exposés dans les galeries les plus prestigieuses du monde. Et pour comprendre ce succès, il faut se rendre à l'Académie des Beaux-Arts où ont été formés la majorité des artistes congolais. Une institution publique réputée qui fête ses 80 ans. Grand reportage d'Aurélie Bazaraki Bangula.
Depuis l'indépendance, la créativité des artistes congolais a accompli des bons spectaculaires. Des mouvements artistiques sont nés comme celui des sablistes ou encore des artivistes. Une créativité inédite qui fait la force des artistes en République démocratique du Congo et que les enseignants de l'Académie des Beaux-Arts tiennent à encourager. Le son des perceuses et des ponceuses résonne dans l'atelier de sculpture, un espace immense qui ressemble à un hangar où des morceaux de plâtre et des barres de fer jonchent le sol poussiéreux. Les mains pleines d'argile, Gloria et Chess sont en plein travail.
Là, je fais la perspective, je suis en train de reproduire une partie des boulevards du Tonchon. J'ai commencé à poser l'argile.
C'est impressionnant, c'est immense, c'est une scène que vous êtes en train de modeler.
Connaissez-moi la table ronde, non ?
C'est l'histoire de l'indépendance de notre pays. C'est une œuvre monumentale, elle mesure 13 mètres.
Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ?
Depuis un mois et demi, tous les jours nous sommes là, sauf les dimanches.
Bah bon courage. Alors de l'autre côté, au bout, là, ce sont des étudiants en plein examen, c'est ça?
Oui, c'est tous les étudiants de la troisième.
Boy, Kassa, vous avez la parole, vous avez 3 minutes.
Face à leurs professeurs, une vingtaine d'étudiants présentent leurs œuvres. Des sculptures de femmes faites de plâtre mélangées à d'autres matériaux. Stylo en main, Paulvine Gimbi, enseignant et artiste sculpteur, évalue leurs travaux selon un barème bien précis.
Il y a beaucoup de critères. D'abord, il y a la créativité, la proportion. Par exemple, si c'est le cas du corps humain ou la représentation humaine, il y a les discours. Il y a la question de la démarche aussi, où on voit d'où il est parti ou où est-ce qu'il en est arrivé avec la technique.
L'art contemporain en République démocratique du Congo, grand reportage d'Aurélie Bazara Kibangula à 19h40, temps universel. Et tout de suite, c'est Nathalie Hamar aux commandes de RFI Matin pour la suite. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, merci à vous qui nous écoutez de nous rester fidèles. On est ensemble jusqu'à 10h. On sera en Israël dans le prochain journal. Haïfa, la troisième ville du pays dans le nord, visée par les roquettes du Hezbollah qui menacent d'intensifier ses attaques. Nos envoyés spéciaux étaient là lors de la dernière alerte. On écoutera leur reportage. La Floride qui se prépare à l'arrivée de 1000 tonnes. Ce pourrait être la pire tempête en un siècle, prévient Joe Biden. Et puis à 8h20, on parlera des Baby Killers, ces jeunes, très jeunes gens recrutés comme petites mains par les trafiquants de drogue. Après un drame il y a quelques jours à Marseille, notre invité sera le sénateur socialiste Jérôme Durin. Il a présidé une commission d'enquête sur le sujet.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La RDC va-t-elle réintégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ? Kinshasa a fait acte de candidature, mais une partie de la société civile et de l'opposition affirme que le pays ne remplit pas les conditions démocratiques pour siéger dans cette instance. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Révélation, art contemporain du Bénin. Une exposition à la Conciergerie de Paris du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 qui réunit une quarantaine d'artistes et plus d'une centaine d'œuvres. Cette nouvelle exposition, au cœur du Palais Royal de la Cité, nous invite à découvrir la tradition et l'histoire du Bénin. Une exposition du Centre des Monuments Nationaux. Plus d'informations sur monuments-nationaux.fr en partenariat avec France Média Monde.